Séoul au jour le jour. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à l'écoute de votre magazine de société Séoul au jour le jour. Des étudiants en formation des maîtres d'une université spécialisée en langues étrangères ont manifesté contre la restructuration des facultés. Les départements d'enseignement de l'allemand et du français risquent d'être supprimés. Nous ouvrons notre édition du jour avec ce sujet, restez branchés, à tout de suite. Au début du mois dernier, des étudiants de l'Université Hanguk des études étrangères ont contesté contre la fusion de départements d'enseignement de certaines langues étrangères en portant des pancartes. Ils sont mécontents de la décision de l'université de rassembler les formations d'allemand, de français et de chinois dans une faculté d'enseignement des langues étrangères unique. Dans le cadre de la réduction de 30% du nombre d'enseignants, d'après le résultat de l'évaluation de la faculté d'enseignement par le ministère de l'Éducation, le nombre de recrutements de nouveaux élèves dans ces derniers départements est tombé à 14 par chacun. L'université a opté pour une faculté unique parce qu'il n'était pas efficace de gérer séparément ces petits départements. Les étudiants actuels et les professeurs d'allemand et de français se sont indignés et l'Association générale des anciens élèves a annoncé qu'ils réagiraient d'une manière juridique. Le ministère de l'Éducation a fait une clarification par rapport à sa position en disant qu'il n'a jamais donné de consignes sur la restructuration des départements, mais qu'il a juste recommandé de réduire le nombre d'élèves dans la formation d'enseignants. Jusqu'à présent, aucun enseignant de français et d'allemand n'a été recruté depuis 2008 et 2009 par le biais des examens nationaux publics de nomination des enseignants. Cela s'explique par le fait que le chinois et le japonais prennent une place plus importante en tant que langues étrangères. Cependant, les opinions divergent quant à la solution de fusionner ou de supprimer les départements concernés. Parce qu'ils risquent de manquer de professeurs alors qu'il y a toujours de la demande de la part des étudiants. Selon une enquête menée auprès de 400 lycées sur tout le territoire, on a besoin de 175 professeurs d'allemand et 168 professeurs de français de plus. Les personnels enseignants mettent l'accent sur la nécessité de la formation des professionnels qui ont une compréhension en profondeur des puissances industrielles en Europe comme l'Allemagne et la France. Shin Hyung-ho, professeur d'allemand a déclaré que la nature de l'enseignement des langues étrangères consistait à former des citoyens cosmopolites dans une société multiculturelle. À l'ère du Covid-19, le programme d'excursion scolaire d'une école primaire prend une autre forme. 80 écoliers de l'école primaire de Damsan à Busan ont pris un vol sans atterrissage pour découvrir l'industrie aéronautique. Le 6 mai, des élèves de la 3e à la 6e année étaient excités à l'idée d'embarquer dans l'avion d'Air Busan, la compagnie aérienne locale qui a organisé cet événement. Cette entreprise est la première compagnie aérienne a lancé un programme éducatif en l'air sans atterrissage face à la crise sanitaire. Il s'agit d'un événement qui dure 6 heures pendant lequel les élèves peuvent découvrir les métiers dans le domaine de l'industrie aéronautique et voyager avec leurs camarades. Cette formation, initialement conçue pour les étudiants d'université, a été réadaptée aux élèves d'école primaire, de collège et de lycée. Les instituteurs de la compagnie aérienne basée à Busan ont présenté aux participants le métier de personnel navigant et de mécanicien dans une reproduction d'un Airbus A321 avant de monter à bord d'un vrai appareil. Le vol sans atterrissage part de l'aéroport international de Gimhae, passe par Pohang, Gangneung et Séoul et retourne à l'aéroport de départ en 2 heures. Les élèves ont porté chacun un chapeau de pilote et fait l'expérience de la diffusion d'informations et du service à bord. Afin de mener le programme en toute sécurité, Air Busan a prêté attention à la prévention sanitaire grâce à un questionnaire et la prise de température. La veille, la compagnie a procédé à une opération de désinfection dans l'ensemble du bâtiment. Selon un représentant, la plupart des écoles ont annulé l'an dernier leur voyage scolaire. Mais à partir de cette année, il y a des demandes pour la reprise des excursions sous une nouvelle forme, tout en garantissant la sécurité sanitaire. Il espère que la proposition de Air Busan sera une bonne alternative adaptée à la situation actuelle. Vous avez probablement vu des masques sanitaires de toutes les couleurs. Dans la ville de Pyeongtaek en Corée du Sud, les masques de couleur jaune sont populaires chez les enfants avec une double fonction, à savoir la prévention contre le Covid-19 et les accidents routiers. La municipalité a offert ces masques à un total de 41 000 élèves de maternelle et du primaire et les parents d'élèves apprécient beaucoup son utilité. Le mois dernier, elle a investi dans un fonds de gestion des catastrophes à hauteur de 194 millions de won, soit 143 000 euros, pour se procurer 41 000 unités de masques jaunes de norme KF94. Cette norme est reconnue par l'administration sud-coréenne des aliments et des médicaments. Le bureau d'approvisionnement de la ville a lancé un appel d'offres pour fournir la quantité demandée de ces masques dans une couleur particulière. Ils ont choisi celle-ci au lieu de la couleur blanche afin de prévenir non seulement l'infection au coronavirus, mais aussi les accidents de la route en augmentant la visibilité des enfants. Cette idée provient d'un citoyen. Le 21 avril, les autorités ont distribuer les produits à 107 écoles maternelles, 65 écoles primaires et 2 écoles spéciales. Jusqu'à la semaine dernière, tous les élèves ont reçu 10 unités par personne. Depuis lors, des parents d'élèves ne cessent d'appeler les établissements scolaires pour demander où ils peuvent en obtenir. Un représentant de la ville de Pyeongtaek a déclaré que les fonctionnaires responsables de l'éducation des enfants avaient réfléchi à un moyen de protéger ceux qui vont prendre des cours en présidentiel dans les écoles maternelles et élémentaires et qu'ils en sont venus à concevoir un masque de couleur jaune, une couleur opaque et visible, afin de réduire le taux d'accident de la route en plus d'empêcher la propagation du Covid-19. Selon lui, la ville envisage d'en distribuer davantage prochainement, comme la demande des parents se poursuit.
Toute la Corée du Sud à portée de clic sur world.kbs.co.kr/french, sans les 3W devant.
Bienvenue si vous venez de nous rejoindre. Vous écoutez Séoul au jour le jour en compagnie de Kim Hong-ju ce lundi 10 mai. Dans l'arrondissement de Chung-gu à Séoul, des boîtes repas réutilisables après lavage sont livrées au centre de garde des personnes vulnérables. C'est la toute première fois dans la capitale sud-coréenne. Les conteneurs jetables, à savoir les bols de riz, de soupe et de plats d'accompagnement, utilisés pour livrer des repas à des personnes âgées et des handicapés qui ont besoin d'aide, sont de plus de 5 types. Depuis que l'utilisation de produits jetables explose dans le sillage de la prolongation de la crise sanitaire de Covid-19, chaque district autonome a une mission prioritaire à résoudre, à savoir de traiter des ordures venant des produits jetables. L'arrondissement de Chung-gu de Séoul a annoncé le 6 mai qu'il a commencé à offrir un service de distribution de repas dans des récipients réutilisables à partir du 21 avril. Il s'agit d'apporter des boîtes à déjeuner aux personnes d'âge moyen âgées de plus de 50 ans et aux personnes handicapées qui ont du mal à se débrouiller seul. Comme le nombre de bénéficiaires atteint pas moins de 434 personnes cette année, la municipalité s'attend à voir un effet important de réduction des déchets à travers ce service écologique. Les autorités ont établi un système à base d'accords tripartites avec une société de livraison de boîtes à lunch et celle de services de remplacement de produits jetables. Lorsque l'entreprise de préparation de repas livre ses produits, la deuxième récupère les conteneurs, procède à 3 étapes de lavage, en passant par le séchage, la stérilisation à l'air chaud et au UV avant de les faire resservir. Les bénéficiaires du service n'ont qu'à rincer les boîtes. L'arrondissement situé au cœur de la capitale sud-coréenne a également approvisionné l'entreprise de livraison de repas en 30 000 sacs plastiques utilisés pour emballer des boîtes biodégradables à 100% qui se décomposent en 90 jours après l'enfouissement dans le sol. Seo Yang-ho, le maire de l'arrondissement, a déclaré que certes, il peut y avoir plus de travail pour la collecte et le lavage des contenants, mais que ces coûts sont minimes en comparaison à la charge que notre terre supporte à cause des produits à usage unique jetés dans le sol. Il a incité non seulement le gouvernement national, les collectivités locales, mais aussi chaque individu à participer activement à la réduction des déchets et à réutilisation des contenants réutilisables. Une mère nonagénaire et son fils dans la cinquantaine organisent une exposition à deux sous le terme des journées comme le printemps. Le fils travaille en tant que coursier le jour et en tant que peintre le soir, alors que sa mère a commencé à apprendre à dessiner à ses 82 ans. Kim Do-yeob, la mère, et Yi Hyang-yong, le fils, ont posé devant leurs œuvres accrochées au mur le mois dernier lors de la visite d'un journaliste du quotidien Dong-a. Sourire léché s'estompe sur leur visage dans la photo publiée. Leur exposition sera ouverte jusqu'au 30 mai dans une salle située dans le bâtiment de la compagnie aérienne Korean Air dans l'arrondissement de Chung-gu à Séoul. Celle-ci veut transmettre comme message la chaleureuse compagnie de la mère et de son fils, avec le titre de l'exposition « Le premier printemps de nos vies ». 100 pièces sur 150 sont peintes par la mère et 50 par son fils. Yi, âgé de 51 ans, a étudié l'art occidental à l'Université des arts de Chugye à Séoul et a ouvert un institut d'art devant l'Université Hongik avant de s'installer dans sa ville natale, Gwangyang, dans la province de Cholla du Sud, en 2011. Il a remporté le concours d'art de Corée et a organisé une vingtaine d'expositions. Kim, sa mère, a fait ses premiers pas dans la peinture en 2010, depuis que son fils a découvert son talent à travers un dessin de pomme qu'elle a réalisé derrière son calendrier avec un crayon usé. Avant ses débuts en tant que peintre, elle a vécu comme une mère ordinaire, en cultivant ses champs ou en vendant des poissons pour élever ses enfants. Depuis qu'elle s'est intéressée à l'art, elle ne cesse d'en produire sans jamais reposer son pinceau, dès le petit matin jusque tard dans la nuit. Elle a peint plus de 400 pièces, dont la plupart représentent des fleurs ou des maisons de son enfance. La mère et le fils peintres disent qu'ils sont les plus heureux en remplissant des toiles blanches. L'exposition actuelle a été financée par l'entreprise de livraison, qui a appris que le Yi travaillait pour gagner sa vie tout en menant des activités artistiques. L'ourson errant Osami, qui s'est enfui après avoir brisé et mangé des ruches de miel dans une ferme apicole dans le district de Yangdong dans la province de Chungcheong du Nord, est réapparu en 10 mois. Le 5 mai, l'ours brun de Mandchourie, dont le code d'enregistrement est KM53, s'est montré sur le sentier de montagne de Minjuji. L'ourson, avec une tache blanche en demi-lune sur la poitrine, ne s'est pas empêché de nouveau d'endommager des bidons de miel pour s'en régaler. Cela fait 10 mois qu'il a été observé dans le district de Yangdong. Le 22 juin 2020, il a cassé 4 ruches d'une ferme apicole pour récolter le miel avant de s'échapper. Dès lors, il a continué de se nourrir dans la région jusqu'au 12 juillet en descendant 5 à 9 kilomètres par jour avant de retourner dans la montagne de Sudo 3 jours après. Osami est un ours qui aime vaguer. Gabondé. Son nom provient des chiffres de son code, à savoir 5 et 3 en coréen, attribué par le service national du parc. Il s'est installé dans la montagne de Sudo lors de sa 12e fuite et il y a fait de la chasse et son sommeil hibernal pendant 12 ans. Il est né en janvier 2015 et a été libéré le 27 octobre sur le mont Tili à Kulie. Lorsqu'il s'est évadé en juin 2017, Il a traversé environ 60 à 70 kilomètres. Après son voyage de Tiri à Suto et ensuite de Suto à Yandong, il a été arrêté un moment pour se faire envoyer au mont Tiri afin de subir un entraînement d'adaptation. L'hiver 2017, il est entré en hibernation jusqu'en mars l'année suivante. Le 5 mai 2018, il a subi un accident de la route sur le trajet vers le mont Suto. Il s'est fait casser son pied gauche par un bus sur une autoroute. Après la guérison, il a été relâché à la destination qu'il voulait atteindre. Après, il est reparti en voyage pendant lequel il a piqué du miel d'un éleveur d'abeilles. Un représentant du Bureau de conservation des espèces biologiques du Parc national a déclaré que les ours bruns de Mandchourie étendent leur zone d'activité après leur hibernation et que l'on ne sait pas encore le chemin qu'il va parcourir. Courir cette année.
Bonjour, bienvenue dans ce nouveau numéro de Focus Asie. Notre première destination est le Japon, où une pétition s'opposant à l'organisation des Jeux olympiques de Tokyo a recueilli plus de 300 000 signatures jusqu'au week-end dernier. Le journal Mainichi Shimbun, l'ancien directeur de l'Association des avocats du Japon, Kenji Utsunomiya, a lancé mercredi dernier sur le site change.org une campagne de mobilisation nommée « Annuler les Jeux olympiques de Tokyo pour protéger nos vies ». À en croire le pétitionnaire, la pandémie de COVID-19 n'est pas sous contrôle dans l'archipel et comme l'offre de vaccins est limitée, la fin de l'épidémie n'est pas pour tout de suite. Il n'est donc pas sûr que les JO puissent se dérouler en toute sécurité. Cette pétition sera envoyée à la mi-mai à la municipalité de Tokyo. Utsunomiya a affirmé dans un entretien accordé au Asahi Shimbun qu'il faudrait utiliser le budget destiné à cet événement sportif pour venir en aide aux personnes dans la précarité. La Chine était responsable de 27% des émissions mondiales de gaz à effet de serre, GES, en 2019, dépassant celles de l'ensemble des pays développés. C'est ce qu'a rapporté le média américain CNBC en citant un rapport de Rhodium Group. La deuxième place était occupée par les États-Unis avec 11%. Viennent ensuite l'Inde et l'Union européenne. En 2019, l'Empire du Milieu a vu ses émissions de GES tripler par rapport à 1990. Le chiffre a grimpé de 25% ces 10 dernières années. Le cabinet américain a estimé que ses émissions s'étaient accrues de 1,7% l'an dernier, alors que la plupart des pays en ont produit moins sur fond de COVID-19. En 2020, le charbon représentait plus de la moitié de la production énergétique de la Chine. On reste en Chine qui a fait appel à un groupe d'idoles pour inciter les habitants à se faire vacciner contre le COVID-19. Le district de Hongkou à Shanghai a organisé la semaine dernière un événement permettant aux personnes vaccinées de recevoir un tampon commémoratif par les membres du girls band SNH48. Le carnet de réservation de l'injection a été rapidement rempli avec la ruée de leurs fans. Cette initiative a été élaborée à la suite de l'ordre du gouvernement central d'élever les taux de vaccination. Certaines régions offrent des aliments comme des œufs à ceux qui reçoivent le sérum contre l'épidémie. Nous nous dirigeons maintenant en Inde. L'administration de Narendra Modi mène à marche forcée les travaux sur des édifices gouvernementaux en dépit de la flambée du COVID-19. D'après la chaîne américaine CNN, le projet immobilier Central Vista, initié par le premier ministre indien, consiste à rénover un quartier administratif au centre de New Delhi. Dans ce cadre, un nouveau bâtiment pour la présidence et un parlement seront mis en place. Alors qu'en ce moment, seuls les services essentiels sont assurés dans la capitale indienne dans le siège de la pandémie, le chantier controversé est toujours en cours. Les partis de l'opposition critiquent acerbement cette démarche en affirmant qu'il faudrait plutôt construire des hôpitaux pour les habitants souffrant de l'épidémie. Sur Internet, une pétition a été publiée pour demander la suspension des travaux qui risquent de devenir un foyer de contamination. Notre voyage de cette semaine prend fin en Birmanie, où de plus en plus de soldats font désertion suite à une série de défaites de l'armée contre les factions rebelles. D'après le journal Irrawaddy, l'armée de l'air birmane recense quelque 80 déserteurs depuis le coup d'état de la junte militaire lancé le 1er février dernier. Le capitaine Lin Tet Aung a affirmé que des centaines de soldats d'infanterie avaient également quitté l'unité pour prendre part au mouvement de désobéissance civile. Certains analysent que les préjudices subis lors des combats récents contre certains groupes armés auraient démoralisé les militaires. L'Union nationale Karen a mené 407 batailles entre fin mars et le début de ce mois-ci, provoquant chez l'armée birmane 194 morts et 220 blessés.
Voilà, ainsi s'achève votre Séoul au jour le jour. En espérant que cette édition vous a plu, rendez-vous du lundi au jeudi, même heure et même fréquence. C'était Kim Mon-jo au micro avec Yunumi à la réalisation. Merci de nous avoir suivis et je vous souhaite une excellente semaine.